Brice Bossan arrive, donc c'est le. Ben, il se présentera lui-même, c'est quelqu'un des phages. C'est pas un knowledge manager, c'est un sponsor, on va dire, un responsable local, d'entité locale. Voilà. Bienvenue. Juste alors, j'étais en train de dire que vous alliez arriver.
C'était vrai.
Et je disais, donc vous étiez des phages, que je vous laissais vous présenter parce que votre titre, je ne vais pas l'écorcher. Voilà, là, je vous laisse le micro.
Vous avez ceci pour passer les slides.
Bien, bonjour à toutes et tous. Gonzague m'avait dit 100 personnes. J'ai l'impression qu'il en manque 3. Ah non, vous êtes là. Je vais vous expliquer les chiffres en bureau d'études. Bon, merci en tout cas Gonzague de m'accueillir aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être là. Je m'appelle Brice Bossan. Je travaille dans une boîte de bâtiments et de travaux publics qui s'appelle Eiffage. Certains doivent connaître un petit peu. Et j'ai initié, allez, soyons fous, je me l'approprie, j'ai initié une démarche il y a quelques années sur la gestion de la connaissance, un petit peu par hasard. Donc Gonzague m'a dit, par hasard ça doit être intéressant, donc venez témoigner et on verra bien ce qu'on peut en faire. Donc me voilà, donc je vais vous faire part du hasard. J'ai 22 ans d'expérience au sein du bureau d'études. Donc ne me posez pas des questions sur autre chose. Et j'en ai assuré la direction pendant 12 ans, avant de passer la main cet été. En fait, dès que j'ai commencé à aller voir mon chef pour dire on va partir dans une démarche de KM, il m'a dit je pense que là c'est fini, donc faut que tu fasses autre chose. Et donc aujourd'hui je m'occupe d'autre chose que le bureau d'études d'exécution, de la performance, du matériel, des achats, de l'innovation, un petit peu d'expertise, et finalement je m'aperçois que la notion de filière métier et de transmission de la connaissance est un sujet partout. Alors maintenant, ben, à chaque fois que je vois mon chef, je lui en parle partout. Donc je vais bientôt changer de job encore une fois. Bon, je vais rapidement vous parler de notre société. Je vais vous dire en gros les étapes. Alors Gonzague m'avait dit ça prendra quelques années. Bon, au début, je l'ai pas cru. Et plus on avance, plus je pense qu'il avait peut-être pas tout à fait tort. Pas encore raison, mais pas tout à fait tort. Et donc, comme il m'a dit que c'était au moins 10 ans, vous avez vu qu'on commence en 2013 modestement, parce que je vais vous réexpliquer qu'on peut commencer beaucoup plus tôt que ça, et que l'ambition à la fin, c'est 2025, donc là, il va être content, puisque ça dure donc plus de 10 ans, je suis d'accord. Et donc, je vais encore avoir besoin de vous pendant un petit moment. Alors le groupe Eiffage, c'est un groupe de construction, je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est le... Oui, bien sûr. Rien n'est confidentiel. Allez-y. Donc le groupe Eiffage, c'est le viaduc de Millau, si certains connaissent un petit peu. N'hésitez pas à passer, c'est très joli. Vu de Millau, c'est beau, mais au-dessus, c'est mieux parce que vous payez le péage. C'est aussi les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, c'est la fondation Louis Vuitton pour les Parisiens qui se battent dans le bois de Boulogne, c'est la construction du futur grand métro parisien à travers un certain nombre de projets au nord avec la ligne 16 ou au sud avec la ligne 15, et c'est globalement une activité de constructeur comme vous pouvez avoir chez tous les majors français, de la construction de l'immobilier, de l'infrastructure, de la route, du génie civil, du métal, de l'énergie et de la concession. Concession, vous avez bien compris, c'était ce qui nous rapportait un petit peu d'argent. Alors, au sein de la branche infrastructure, on a plusieurs métiers. Moi, je suis dans un des métiers qui s'appelle le génie civil. On doit être les plus en avance, je pense, dans ces sujets de gestion de la connaissance, mais globalement, le problème est le même partout. Et plus spécialement, au niveau du génie civil, je suis là pour vous témoigner de l'expérience du bureau d'études. Donc, le bureau d'études, C'est en gros une équipe d'une centaine de personnes aujourd'hui dont le rôle est de faire des calculs et des plans, lesquels plans partent sur chantier et aident à la construction. Une population a priori relativement privilégiée, plutôt des bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, bac plus 6, qu'il est très facile d'embarquer dans des nouveaux projets, vous vous en doutez. Alors, comment tout a commencé? Ça a commencé il y a un petit moment. Alors, en 2003, c'était déjà moi. À cette époque-là, on me dit, un jour, on te donnera les rênes du bureau d'études, donc faut que tu t'y prépares. Et à cette époque-là, c'était simple, le bureau d'études, c'était environ 20 personnes. 10 ingénieurs, 10 projeteurs. Et dans les 10 ingénieurs, il y en avait deux à l'époque qui avaient moins de 30 ans, et les autres avaient plus de 55. Donc, au moins, l'équation était assez facile. Donc, ma première réflexion, ça a été de dire, qu'est-ce qui se passe une fois que tous les jeunes anciens seront devenus des retraités? Et donc là, c'était pas glorieux. Donc, j'ai commencé à regarder comment on faisait. Alors, en fait, on n'a pas pu faire, faut pas se raconter d'histoire. On a fonctionné en mode dégradé pendant plusieurs années. Et la seule chose que j'ai voulu refaire, c'était remettre au goût du jour le tutorat, c'est-à-dire faire former des jeunes par des plus anciens. Et donc j'ai dit à tous ceux qui partaient à la retraite, le contrat c'est simple, tu es autorisé à partir, sous réserve, que tu formes 3 jeunes. Alors ça a fonctionné par certains qui avaient une envie de transmettre de manière très naturelle, et puis avec d'autres, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et ce dont je me suis aperçu à ce moment-là, c'est que le système, l'entreprise, finalement ne mettait pas à disposition des collaborateurs un environnement favorisant la transmission de connaissances. Ça, je vous le dis avec le recul, parce qu'à l'époque, j'ai juste constaté que ça fonctionnait pas, mais sans forcément y mettre de la sémantique dessus. Alors, c'était simple, et ça reste simple aujourd'hui, parce que 15 ans après, on a progressé, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. C'était rendre accessible l'information utile. Utile, je pense que vous connaissez tous Google, et vous êtes comme moi, quand vous tapez un mot, vous avez 1 million de réponses. Tout n'est pas utile. Donc la notion de tri de l'information est quand même essentielle. Et passer d'une logique relativement individuelle à une logique collective. Alors dans le BTP, c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu parce que la moyenne d'âge aujourd'hui dans le bureau d'études est environ de 32 ans. L'ancienneté moyenne doit se situer entre 5 et 6 ans. Et il y a 70% des gens qui ont moins de 30 ans, qui sont plutôt dans un premier poste, et leur second poste sera ailleurs, dans l'entreprise FH, mais parfois aussi ailleurs dans le métier. Ils vont changer de métier dans leur deuxième ou troisième poste. Donc c'est un vrai sujet d'avoir un système, comme je dis souvent, aller vers l'entreprise auto-apprenante, qui doit nous permettre d'avoir une capitalisation de la connaissance et une mise à disposition de la connaissance automatique ou quasi automatique. Tout ça, bien évidemment, doit être favorisé par le réflexe de partage, et j'y reviendrai un peu après. Le partage, naturellement, même dans une population privilégiée de bac plus 3 à bac plus 6, c'est pas automatique. Alors notre démarche, il y avait trois étapes. On va considérer qu'on est toujours dans la troisième étape. La première, c'est on cherche. On essaye de trouver des idées et on essaye de voir comment on les implémenterait dans l'entreprise. La deuxième étape, c'est on commence à faire quelque chose. Et l'étape dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que on commence à faire percoler notre démarche et à essayer de trouver des relais ou au moins des leviers d'amélioration. La troisième se fait avec l'aide de Gonzague aujourd'hui. Seul, ce serait un peu compliqué, voire impossible, je pense. Alors la démarche spontanée, c'est facile. On a une approche risque maintenant dans les métiers de la construction qui favorise un certain nombre de questionnements, pas toujours les réponses, mais un certain nombre de questionnements. Et on s'est aperçu quand même que le risque humain, au sens capitalisation, savoir-faire, préserver notre capital humain, le valoriser, le gérer, globalement était au-delà d'être dans l'air du temps, était vraiment un vrai sujet dans le BTP, puisqu'on reste quand même un métier où on fait beaucoup sur place, en France, des travaux propres avec nos propres compagnons, et donc on a un vrai savoir-faire. Et au bureau d'études, c'est exactement la même chose. Alors, à cette époque, en fait, c'est là où je découvre sur Internet, en tirant des fils à droite à gauche, l'Institut supérieur de cognitique à Toulouse. Quelqu'un connaît ? Ça me rassure, parce que je crois que ça a changé de nom depuis. Donc, vous avez le droit de ne pas connaître. Et une méthode particulière, méthode MASK, M-A-S-K. Ça, vous connaissez ? Voilà. Moi, j'ai appris que tout ça avait du sens que lorsque j'ai vu Gonzague, environ 6 ans plus tard. Voilà. Mais tout arrive. Donc, fort de ça, je me dis, bon, il faut quelqu'un pour le porter, parce que moi, je sais que je suis nul, et il va falloir trouver quelqu'un à qui je donne la mission. Donc là, j'ai embauché quelqu'un qui est une formation de Sciences Po, donc absolument rien à voir avec notre métier, à qui j'ai dit, on va partir dans une démarche de productivité, d'amélioration de la productivité, et donc, il faut travailler. Donc ça, on est en 2015, et dans notre démarche d'amélioration de la productivité, on a commencé à faire 2-3 choses, notamment une cartographie des compétences. Ça peut vous paraître simple aujourd'hui, mais il y a quelques années, dans une boîte comme la mienne, dans des prestations intellectuelles, c'était pas aussi évident que ça. Réalisé avec l'appui de la DRH, en fait, ça c'est si un jour la DRH voit le slide, parce que l'appui de la DRH s'est résumé à nous dire « Allez-y, c'est une bonne idée ». Donc nous avons bâti. C'est déjà bien pour une DRH. Ouais. Où sont les DRH? Avez-vous des questions? Non? Ben je continue. Puis après, on a quand même réfléchi. On s'est dit que c'était compliqué. Et donc là, j'ai découvert un petit peu par hasard, enfin pas tout à fait par hasard, dans le groupe, il existait, je vais me fâcher avec tout le monde cet après-midi, dans le groupe, il existait une personne qui venait de l'école des bibliothécaires documentalistes, l'EBD, et cette personne avait un titre assez ronflant au niveau de la holding. Et donc quand je suis allé la voir, rapidement on s'est donc engueulé, je crois, et elle m'a dit, mais là tu fais fausse route, tu pars dans une démarche de KM et t'en as au moins pour 10 ans. Je dis, bon, inutile de te dire que moi je veux que ça bouge, donc 10 ans c'est trop long, et donc ça va aller beaucoup plus vite que ça, j'ai plus besoin de toi. Donc on est allé voir l'EBD et on a accueilli une stagiaire. Et la stagiaire arrive et elle me dit, oula mon pauvre monsieur, vous en avez pour longtemps. Je dis, bon, ben c'est bon, je sais d'où ça vient de l'école. Et donc on a commencé par faire un truc assez intéressant, ressortir les livres des armoires et les mettre dans une bibliothèque que tout le monde puisse voir. Alors aujourd'hui, tout le monde peut voir, très objectivement, quelques années après, je pense qu'on a juste refait la tapisserie d'une pièce. Il se trouve que la tapisserie, c'est des bouquins rangés dans des cases, mais globalement, les bouquins sortent pas et ne rentrent pas. Mais ça a le mérite d'exister, et cette démarche a fait un petit peu, c'est un petit peu généralisé dans le campus, où on a pu mettre en réseau, comme ça, sur les bibliothèques, 3 bibliothèques de bureaux d'études, un spécialisé en béton, un spécialisé en métal et un spécialisé en bâtiment, et la bibliothèque centrale du campus, où là les livres, ils peuvent pas bouger parce que les beaux livres en cuir qu'on aura envie d'ouvrir, ils sont sous clé. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Mais on a au moins un réseau de bibliothèques et une sorte d'embryon de partage de quelque chose. Bon, inutile de vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'emprunts, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et je pense que c'est important dans la démarche qui a été la nôtre depuis. L'objectif, c'était quand même de rendre visibles les choses. Donc ça, c'est l'été 2016. Puis, comme cette stagiaire se plaisait chez nous, on lui a dit, si tu veux, tu peux rester. Donc elle a fait son alternance chez nous. Et puis on a dit, bon, pour bien connaître le BD, on va prendre une deuxième étudiante. Et donc on a pris une deuxième étudiante qui, elle, a travaillé plutôt sur la partie portail numérique. Donc on a mené de front, toujours mon envie d'aller un peu plus vite, de front, deux briques, on va dire. Une qui était basique, juste ressortir une partie de la connaissance du bureau d'études et la mettre sur des étagères, et une autre qui était orientée vers le portail numérique. Alors, au début, on a plutôt commencé par Yammer. Moi, la première fois qu'on est venu me dire « faut mettre un flux Yammer », j'ai dit « n'importe quoi, c'est quoi ce truc-là » Alors depuis, j'ai appris ce que c'était. Bon, il peut y en avoir d'autres. Hein. Je pense que nous, aujourd'hui, dans l'entreprise, Yammer est nettement moins utilisé que Skype. Donc l'important, c'est que les gens commencent à échanger entre eux et commencent éventuellement à se donner des informations entre eux. Du style « je sais pas, mais va voir un tel, peut-être qu'il sait ». Et cette notion de partage en temps réel nous est apparue assez intéressante. Donc là, vous avez le superbe résultat. D'un côté, un portail numérique. Alors, vous allez être obligé de me croire, mais dans ce portail numérique, il y a les trois bureaux d'études. C'est-à-dire qu'on a fait un portail pour les trois. C'était le cahier des charges initiales. Avec cette envie de partager la connaissance de l'ingénierie. Et le portail s'appelle e-engineering. E-engineering parce que e comme éphage, tous les outils groupes s'appellent e quelque chose. On n'est pas encore à la logique de e quelque chose. Et à droite, la belle bibliothèque. Bon, cette photo doit avoir 4 ans. La seule chose qui a changé, c'est que un des bureaux a trouvé les poufs assez sympas. Et donc, au moins 2 poufs ne sont plus dans la bibliothèque et servent de table dans un des bureaux. Donc au moins, ça a servi à quelque chose. On s'est aperçu aussi assez vite que l'important c'était de partager de l'expérience. Et donc dans le BTP, on a quelque chose qui est assez connu, qui s'appelle REX. Retour d'expérience. Je dis c'est très connu, mais par contre c'est pas très utilisé. C'est pas très utilisé pour 2 raisons. La première, c'est qu'on fait des chantiers qui sont relativement longs, et qu'il est toujours difficile en fin de chantier de se remémorer tout ce qui s'est passé pour faire un retour d'expérience utilisable. Et la seconde, qui est pas loin d'être la première, c'est quand on a fini un chantier, heureusement, on en commence un autre. Et donc, souvent, les gens sont pris dans la dynamique, l'engouement, la nécessité de démarrer un nouveau projet, et donc, du coup, sont plus vraiment très concentrés sur l'ancien projet qu'ils ont qu'une envie, c'est de quitter le plus vite possible. Et donc, avec ce constat-là, au bureau d'études, on a mis en place un autre concept, une brique de plus, qui est le partage de l'expérience plutôt en temps réel. En temps réel, donc on a commencé par le deuxième point qui s'appelle le quart d'heure technique. Le quart d'heure technique, c'est simple, c'est une personne rencontre un problème ou est contente de ce qu'elle a fait ou a rencontré quelque chose qu'on n'avait pas encore traité au bureau d'études ou s'est trompée. Elle prend 3 slides. Elle s'inscrit et elle vient parler le mardi matin. Mardi matin à 9h à ceux qui veulent bien venir. Donc la première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, ça n'a pas eu lieu. La troisième fois, il a fallu quand même dire au fait, ce truc-là, on l'a pas fait pour rien, donc essayez quand même. Aujourd'hui, ça existe depuis environ 2 ans, 1 an et demi à peu près. Il y a environ 60 personnes en moyenne qui assistent. Sur une population de bureaux d'études de 100 personnes, donc c'est quand même plutôt une bonne assistance. On a même rencontré des problèmes de logistique et on a dû faire ouvrir la bibliothèque du campus. On est un des rares services à avoir le droit à la bibliothèque du campus pour faire nos quarts d'heure techniques. Et des gens des autres services commencent à se dire que le mardi à 9h, il peut y avoir quelque chose d'intéressant à la bibliothèque. C'est bien, non ? La vie est faite de petits succès. Et donc cette démarche-là commence à prendre un petit peu. Maintenant, j'attends juste que quelqu'un d'autre monte des quarts d'heure techniques auxquels nous pourrons aussi aller assister. Moi, ça aurait été une bonne, belle reconnaissance. Ça fonctionne quasiment de manière autonome. Il faut parfois un petit peu relancer quand on se retrouve après l'été ou après les vacances. Mais globalement, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et aujourd'hui, ces quarts d'heure sont captés vidéo et donc viennent enrichir notre portail e-engineering et donc contribuent à fabriquer de la connaissance. Après, faut que les gens aillent voir. Ensuite, on a dit, alors ça dure vraiment un quart d'heure. Hein. L'objectif, c'est vraiment un quart d'heure dans l'emploi du temps des gens. Personne peut venir me dire qu'ils n'ont pas un quart d'heure à consacrer à écouter ce que va dire un collègue. On a un autre format qui est un peu plus de la diffusion d'informations sur une demi-heure projet où là c'est un peu plus structuré, on prend une affaire, une activité et on vient parler de, on va dire, l'état de l'art. Par exemple, les barrages hydroélectriques aujourd'hui, il y a quelqu'un qui prend le sujet et qui explique où en sont les entreprises françaises et comment on fait des barrages hydroélectriques. On a aussi, dans cette veine-là, on avait accueilli une autre étudiante de l'EBD, à qui on avait confié le montage de tutoriels sur YouTube. Et là, ça n'a pas très bien fonctionné. Bon, c'est bizarre, ça a fonctionné le jour où tout le monde a appris que la personne n'allait pas pouvoir rester. Et donc là, d'un seul coup, en un mois, tout le monde voulait être filmé sur son tutoriel AutoCAD. Mais le constat, c'est que probablement, on l'a fait un petit peu trop tôt. Voilà. Mais bon, on y reviendra dans quelques temps, mais c'était aussi une idée. Et actuellement, sur le même format, on essaie de travailler sur du partage d'expérience avec des webinars. Ça permet de gérer les gens à distance, puisqu'on est un groupe avec des gens qui sont quand même assez loin. Donc le quart d'heure technique, c'est présentiel, même si les gens peuvent consulter la vidéo après. Le webinar permet d'avoir un échange un petit peu différent. Alors, lorsqu'on a fait tout ça, on s'est bien aperçu qu'on avait quand même posé quelques briques, comme ça, un petit peu semées. Mais tout ça manquait de cohérence, enfin pour moi en tout cas manquait de cohérence. Et donc grâce à une des étudiantes de l'EBD qui était en poste, on a rencontré Gonzague et le cabinet Uruk qui nous ont expliqué de manière tout à fait brute, franche, claire. Il m'a dit « Vous ressemblez à un vieux client à moi ». J'ai dit là, ça commence mal. Et il y a des choses qui sont faites chez vous, c'est bien, mais il y a quand même beaucoup de choses qui restent à faire. Bon, je dis d'accord. Et donc, le bilan, c'était dynamiser l'existant. C'était assez sympa, hein, en fait. C'était plus, ouais, ok, c'est bien, mais il va quand même falloir passer la seconde. Donc moi, ça me va très bien. Et on est en train d'essayer de passer la seconde avec une partie de gestion documentaire, une partie de mise en réseau, enfin voilà, il y a des démarches qui se font. Et surtout, il nous a éclairé sur un sujet qu'on n'avait pas forcément bien vu, qui était l'incidence directe et indirecte du manque de connaissances dans un bureau d'études pour une boîte de construction. On était un petit peu focalisé sur notre sacro-saint métier et grâce à cette intervention, on a quand même pu mettre en regard le bureau d'études par rapport à l'acte de construire. Et on s'est aperçu qu'effectivement, on n'était peut-être pas les seuls à avoir ce problème. Et quand on a commencé à discuter avec des opérationnels, et qu'on leur a parlé transmission du savoir-faire, gestion de la connaissance, tout de suite, ça a fait écho chez eux. Donc là, on est un peu dans une phase où on est potentiellement victime de notre succès. Pardon. Où on est potentiellement victime de notre succès et donc on est plutôt dans la phase où on essaye de ralentir. Gonzague, mon niveau informatique n'a pas beaucoup bougé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Où on essaye de ralentir un petit peu les demandes, puisque le risque, c'est que si on donne suite aux demandes telles qu'on les a aujourd'hui, on va forcément insatisfaire un certain nombre de clients internes. Parce qu'il faut quand même arriver, leur expliquer, vous inquiétez pas, vous êtes parti pour 10 ans, ça c'est facile. Et après, il faut juste leur dire, vous inquiétez pas, ça va être très dynamique pendant 10 ans, ça va être séquencé, et on est là pour vous aider. Et là, pour le coup, il faut quand même trouver de l'aide. Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de première consolidation. Alors, au bureau d'études, on a développé une carte de connaissances, et on est en train, là, on est dans cette phase-là, hein, ça a quelques semaines, et on est dans la phase où on essaye de faire vivre cette carte de connaissances, pour aller vers une notion de compétences critiques et de connaissances clés pour l'entreprise, voire stratégiques. Donc on essaye, modestement, c'est en tout cas ce que j'ai demandé il y a quelques jours, de mettre des indicateurs sur cette carte, de manière à pouvoir s'en servir comme aide à la décision. Alors, bon, vous voyez, il y a deux zooms sur la droite. On va dire le premier, c'est un zoom d'une compétences, ouvrages très bien implantés au bureau d'études. La seconde, peut-être que certains connaissent, ça s'appelle le BIM. Tout le monde connaît le BIM ? BIM, ça veut dire le B, tout le monde est d'accord, c'est building. Le I, tout le monde est d'accord, c'est information. Et le M, vous avez ou modèle ou management, faut voir. Mais globalement, c'est la gestion d'informations embarquées dans des projets. C'est potentiellement très puissant, parce que du coup, ça va nous forcer à embarquer de la connaissance sur nos projets, et il suffira, entre guillemets, de récupérer l'objet avec la connaissance embarquée, de manière à bénéficier de cette connaissance. C'est simple. Dans la réalité, c'est légèrement plus complexe. Je vois un monsieur qui dit que c'est même difficile. Non, c'est extrêmement difficile. Mais on peut en reparler après si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, on en est à développer une gestion documentaire, puisque ça devient un vrai sujet. On refond notre portail numérique pour la énième fois, ce qui montre aussi que c'est un signe de maturité et d'évolution. Et comme j'ai dit tout à l'heure, notre action, notre Fab Lab de bureau d'études est en train de d'éclore, et une démarche est en train de percoler au sein des entités d'EFA Génie Civil. Je dis « est en train » parce que je m'inscris parfaitement maintenant dans la logique des 10 ans. Donc ne venez pas me voir dans 6 mois pour me demander où on en est. Ça se compte plutôt en années, vous avez bien compris. Pour conclure, je pense qu'en fait on a découvert ça un petit peu par hasard, mais comme je disais juste avant de rentrer, on a un peu découvert la norme ISO 9001 par hasard, et puis la version 2015 sur l'approche des risques un petit peu par hasard, et la gestion de la connaissance un petit peu par hasard. En fait, ce qui est le hasard, c'est d'arriver à mettre une approche scientifique sur un problème d'entreprise. Il y a 20 ans, à l'époque de la 9001, le problème d'entreprise, c'était juste de structurer et mettre un peu de rigueur dans une entreprise. Il y a 10 ans, un peu moins 10 ans pour la 2015, le vrai sujet, c'était d'avoir une approche risque dans une entreprise. Technique, juridique, humain, etc. Aujourd'hui, on est dans un vrai besoin de transmettre. Tout le monde vous en parle, il n'y a plus beaucoup de soudeurs en France. Le métier de soudeur, il est peut-être amené à disparaître. Si on ne transfère pas nos compétences et nos connaissances, ben un jour, on aura un sujet. Donc c'est un sujet vraiment de société. Ça reste malgré tout compliqué, parce qu'on est quand même dans une culture plutôt individualiste et pas collective, comme ça a pu être il y a 40 ans dans le BTP, où il y avait une notion d'équipe beaucoup plus forte, de tutorat, de fidélité. Aujourd'hui, on est dans une logique quand même de prise d'expérience sur des cycles relativement courts, et puis on se remotive pour un nouveau cycle. Par contre, ce nouveau cycle, on a quand même envie globalement qu'il soit dans une autre entreprise. C'est pas question de savoir si l'herbe est plus verte ailleurs, parce que globalement, dans le BTP, on fait tous la même chose. Mais c'est juste de changer un petit peu l'environnement et avoir quelque chose de challengeant à chaque fois. L'objectif pour nous, vous avez bien compris, c'est de rester challengeant tous les 2 ans avec tous les collaborateurs, mais qui restent chez EFAGE. Pas forcément au bureau d'études, mais chez EFAGE. La notion du changement est un vrai sujet, comme toute nouvelle démarche. Il y a une vraie conduite du changement. C'est un sujet important pour nous, même si, a priori, on est à faire une population, encore une fois, Bac+3, Bac+6, c'est une population plutôt assez jeune. Mais la culture du changement est importante, puisque les jeunes, presque plus que les anciens, demandent une vision. Une vision d'entreprise, demandent à se projeter. Même si c'est pas eux qui assureront la fin du cycle dans 10 ans, ils veulent savoir quand même pourquoi ils travaillent. On peut pas leur reprocher ça. Donc c'est quelque chose qu'on leur doit, mais par contre c'est assez difficile de décrire le cap et de le garder. Alors, puisque 10 ans c'est court, on va essayer d'aller un peu plus loin. Et donc moi j'ai fixé un objectif à nos équipes chez EFA Génie Civil, c'est de dire, aujourd'hui on parle beaucoup de gestion de données, on parle de retour d'expérience, on parle de capitalisation en temps réel. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un outil qui embarque nos données en temps réel, qui capitalise le sacro-saint Rex, mais sans l'appeler comme ça, et qui soit capable de nous restituer de manière proactive nos expériences passées. Et là, on pourrait considérer qu'on a vraiment un outil efficace, puisque dans le BTP, ce qui est bien, même si on fait des prototypes, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc lorsqu'on ne fait pas de sondage géotechnique, lorsqu'on n'a pas le directeur de projet lorsqu'on démarre le chantier, lorsqu'on n'a pas fait la visite au service juridique pour savoir, il y a des chances que 6 mois après, le réveil soit un peu douloureux. Mais rien que ça, si on pouvait l'expliquer à tout nouveau patron de chantier lorsqu'il démarre un chantier, nous aurions déjà bien progressé. Et je pense qu'on peut en faire un peu plus. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, ne pas se limiter, ça c'est vraiment un sujet. Il faut des moyens, il faut aussi une vision très claire. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec Gonzague, c'est de manière à vraiment poser cette vision, la partager et la faire évoluer. Voilà, je vous remercie. S'il y a une question, deux questions, Gonzague. Une demi-question. On l'a changé. On a changé le nom parce que c'était un peu has-been bibliothèque. Donc on l'a appelé Infothèque. Et je crois que nos amis du métal ont appelé la leur Infostyle. Ouais, non, mais on est des grands inventeurs. Si vous voulez faire du naming, je vous laisse ma carte après et on en parle. Oui, en fait, au début, c'est ce que j'ai appris aussi, c'est là que j'ai appris le mot thésaurus. Quand l'étudiant de l'EBD est arrivé, il me dit, vous pouvez me sortir le thésaurus? Je lui dis, bon, ça commence mal. Je lui dis, le plus simple, c'est que tu le fasses toi-même et puis on en reparle après. Et donc, on a effectivement commencé par là. Donc, on a tout réenregistré, suivant la norme, et on s'est doté de l'outil PMB pour mettre en réseau nos quatre bibliothèques. Et on a un programme de développement du réseau de bibliothèques, mais en fait, on s'est vite aperçu, lorsqu'on a fait le bureau d'études du bâtiment, que l'action seule de ressortir les livres pour les mettre dans la bibliothèque était quasiment inutile. Il fallait mettre cette action dans un contexte. Et ce qui a réussi chez nous, c'est que lorsqu'on a fait ça, on était déjà dans une démarche avec quelques mois d'avance. Et donc finalement, lorsqu'on a inauguré notre bibliothèque, on a eu le droit à la directrice de la communication du groupe, ça vous montre à quel point c'était quand même assez novateur, hein, en 2016, de mettre une bibliothèque. On était finalement dans une démarche qui s'inscrivait déjà à l'horizon de 12 à 15 mois. Donc les gens ont vu finalement la bibliothèque comme étant un des points de passage. Chose qui ne s'est pas passée dans le troisième bureau d'études. Et je pourrais même pas vous donner le nom de la bibliothèque, parce que je crois qu'elle n'a pas été nommée dans le troisième bureau d'études. Donc elle doit s'appeler bibliothèque. Oui. Alors au début, vous avez bien compris que personne s'occupait du projet, puis une stagiaire pendant 2 mois, puis 2 alternantes pendant 1 an, puis une embauche et une alternante pendant 1 an, puis une embauche et une alternante pendant 1 an, puis aujourd'hui, une embauche et une alternante. Vous avez l'impression que c'est toujours la même, mais en fait, ça a toujours changé. Toutes les alternantes, c'est normal, mais les embauches aussi. Et donc les 2 personnes qui s'en occupent aujourd'hui sont dans la salle. Donc le service comptabilise 2 personnes, avec un responsable qui fait pas grand-chose, et moi, le chef du responsable, qui en fait encore moins, vous doutez bien. Donc plutôt 2 personnes à temps plein, oui. Pour les 100 personnes physiques du bureau d'études, plus 50 extérieurs, parce qu'on a aussi une démarche d'essayer de capter et puis de faire monter en compétences nos sous-traitants qui sont basés en France et à l'étranger. Et puis, si on va par extension, mais c'est un peu malhonnête de ma part de vous donner ce chiffre-là, mais potentiellement, notre terrain de jeu, c'est 7000 personnes. Mais donc, pour l'instant, on est à 100. Enfin, 150. Nous débutons. Et après, on a juste la prestation de Gonzague en extérieur. Mais quelques heures par an. Oui. Je ne vais pas vous donner la réponse de la profession. Je ne vais pas vous donner non plus la réponse de l'enseignant que je suis parfois dans des écoles. Je vais vous donner la réponse du patron du bureau d'études que j'ai été pendant quelques années. BIM manager, ça veut rien dire. Ça a été une bulle. Ça a été, parce que c'est fini. C'était une bulle pour des jeunes diplômés de penser qu'ils pouvaient toucher en sortant de l'école 60 000 euros annuels. Il y en a eu, hein. Il y en a eu. Je pense que ça, c'est fini. Et à titre personnel, au bureau d'études, le BIM manager que nous avons, je lui ai interdit de s'appeler BIM manager. Donc il est chargé de mission BIM. Et je lui ai dit, un jour, tu me remercieras. Bon, on n'y est pas encore tout à fait. En fait, la notion de BIM manager, je pense, est comme beaucoup d'outils nouveaux. Alors dans le BTP, c'est flagrant. C'est des outils qui marient à la fois une intelligence informatique, mais qui sont absolument rien s'il n'y a pas de compétences métier. Et donc, dans les premières expériences de BIM qui ont été réalisées, alors chez nous, ben, le premier gros chantier, c'était la construction du campus Pierre Berger à Vélizy, où en fait, le BIM manager, c'était deux personnes. Un spécialiste de chez Autodesk et un conducteur de travaux principal. Et ils étaient tous les deux dans le même bureau, et c'est eux qui à la fois géraient les échanges de fichiers informatiques et le conducteur de travaux principal qui amenait l'expertise métier pour conseiller l'informaticien dans ce qui était possible et pas possible. Nous, notre activité, c'est plutôt le génie civil, donc les gros ouvrages, les stations de traitement d'eau, les gares de métro. On démarre. J'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'au stade où on en est, quelqu'un qui a une tête bien faite, une bonne capacité d'analyse, une capacité de faire travailler des gens qui ont quand même des points de vue très différents ensemble, allez, on va dire un bon manager, ça doit être nettement plus intéressant que quelqu'un qui a fait des études BIM. Mais c'est mon avis personnel, hein. Et si je vous vois demain à l'école des Ponts et Chaussées, je vous dirai bien évidemment tout autre chose. Oui. Oui. En fait, le plus difficile, c'est comment embarquer l'information de manière fiable, comment la mettre à disposition de manière fiable. Vous donnez un exemple assez simple. C'est plutôt lié au contexte contractuel français. En France, par exemple, une station de métro du Grand Paris qui est en cours de construction, la société du Grand Paris passe un contrat à une maîtrise d'œuvre qui elle-même passe un contrat à une entreprise pour construire la boîte avec les dalles. Et puis il va passer un autre contrat à quelqu'un qui va venir poser l'électricité. Et il va passer un autre contrat à quelqu'un qui va venir poser le carrelage. Et au final, un exploitant qui aura contracté directement avec la Société du Grand Paris, va venir pour exploiter et maintenir la structure. L'intérêt d'un modèle avec de l'information embarquée, c'est très clairement pour l'exploitant mainteneur. C'est pas la peine de prendre l'échafaudage pour aller savoir quelle est la lampe qui est là-haut, quoi. Si on doit la changer, on regarde dans la maquette, on regarde la lampe, on la commande et on met l'échafaudage qu'une seule fois pour la changer. Ça, c'est pertinent. Le problème, c'est que ça, c'est fin de chaîne. Quand nous, on signe le marché véridique, hein. On signe le marché avec la maîtrise d'œuvre, on dit attention, Grand Paris, chantier en BIM. Ça rejoint votre question des chantiers publics. Chantier en BIM. Voir l'annexe 16, je crois. Si c'est pas 16, c'est 14. L'annexe n'était pas dans le marché. Et on pose la question au maître d'œuvre et on dit pourquoi l'annexe n'est pas là? Il dit attention, faudra vous y conformer. Ah oui, très bien. Vous nous demandez une remise de prix au forfait et vous nous dites de nous conformer à une annexe qui n'existe pas, mais par contre, quand elle arrivera, il faudra nous y conformer. Oui, bien sûr. Pourquoi elle n'y est pas? En fait, elle n'y est pas parce que la SGP, elle s'en fout de la construction. Ce qui l'intéresse, c'est de faire rouler des métros toutes les 2 minutes, qu'ils arrivent à l'heure, qu'ils partent à l'heure et que les gens soient en sécurité. Donc on est dans une logique d'exploitant-mainteneur. Soit quelque chose avec les travaux du Grand Paris qui ralentissent, pas les nôtres, ceux de nos concurrents, ça se fera pas avant 10 ans. Donc l'exploitant-mainteneur, il a le temps d'arriver. Et il a le temps d'imposer ses règles, y compris sur l'information. Donc il y a toujours eu ce sujet-là, qui est un sujet assez compliqué dans notre métier, qui est, on démarre un chantier, on nous demande de l'information, mais l'information qu'on nous demande, c'est pas celle qui va être utilisée au final. Moi, si on me dit le panneau de Port-au-Moulay, vous l'avez coulé à 22h, vous avez fini le coulage à 3h du matin, vous avez mis 500 mètres cubes du béton qui venait de la centrale là-bas et il faisait telle température, l'exploitant mainteneur, 15 ans après, c'est pas son sujet, quoi. Donc il y a une vraie hiérarchisation de l'information, organisation de l'information, et aujourd'hui on s'aperçoit sur tous nos chantiers D'ailleurs, je pense que sur nos plus gros chantiers, les gens qui s'occupent de ça ne sont pas des BIM managers. Ils sont plutôt des managers. Par contre, au niveau du dessous, BIM coordonnateur et BIM modeler, là, j'ai gardé les titres. Parce que là, ça veut dire quelque chose. Modéliser dans un univers de maquettes numériques avec de l'information embarquée ou coordonner des maquettes entre elles pour faire des revues de projets en trois dimensions, ça, c'est un métier. Ça, c'est un vrai job. Ça correspond jamais. Ça correspond jamais. Mais aujourd'hui, vous allez chez un concurrent à nous qui a une très belle salle immersive, qui est plutôt, on va dire, du domaine de la vitrine commerciale. Mais pour l'avoir vu une fois, faire une revue de projet en 3D dans une salle immersive, c'est bien. Hein, c'est bien. Après, il faut voir à quoi ça sert, mais c'est sympa. Donc un jour, ça servira. Un jour, ça servira. Quant au marché public et l'imposition du BIM, très honnêtement, je n'y crois pas. Simplement pour deux raisons. La première, c'est distorsion de la concurrence. Vous ne pouvez pas imposer à des petites boîtes d'avoir énormément d'investissements dans ces domaines-là. Et puis ensuite, c'est que d'expérience, si vous vous souvenez, je peux me permettre, à une époque, les marchés publics devaient imposer l'ISO 9001. Et comme l'ISO 9001 est devenu quelque chose de payant, les marchés publics n'ont pas pu l'imposer. Ils ont imposé une démarche qualité, mais ils ne peuvent plus imposer l'ISO 9001. Et il y a, de manière un peu plus récente, je parle sous couverte, quelqu'un qui est dans la salle, l'OPQIBI, qui est quelque chose qui a été mis en place par la puissance publique, et plutôt les petits donneurs d'ordre, parce qu'ils avaient énormément de problèmes d'artisans qui se mettaient à leur compte, qui répondaient à énormément de petits marchés communaux, qui prenaient toutes les avances, et qui après déposaient le bilan. Et en fait, ils ont mis en place un système de qualifications professionnelles, et ces qualifications professionnelles ne sont obtenues que lorsqu'on apporte la preuve qu'on a réalisé au moins quelques chantiers dans ce thème-là, de manière à limiter. Le problème, c'est que cet organisme fait payer ses prestations. Donc aujourd'hui, toutes les collectivités, quand elles passent un marché, elles demandent la certification numéro 1203 de cet organisme ou un dossier de référence attestant. On ne peut pas imposer quelque chose qui est payant. C'est bon, j'ai répondu à vos plusieurs questions. Ouais, et puis après en haut. J'ai dit ça moi. Ça c'était ambition 2025. C'est ça, non? Ouais. J'ai le droit de pas en parler tout de suite. Je vais en parler quand même, mais on va considérer que comme toute entreprise, nous générons énormément de données. Souvent, dans le monde du BTP, les générer sur papier. Dans d'autres entreprises, elle est générée par prise de paramètres sur des ordinateurs. Dans le monde des engins de travaux publics, elle est générée par le régime moteur, la consommation, prise sur l'ordinateur de bord. Donc toutes ces données, elles existent. On ne parle pas de big data parce qu'on est assez modeste, mais globalement, il y a beaucoup de données diverses et variées. Et aujourd'hui, ces données, on ne sait pas trop quoi en faire. Quand on a un problème, on va les chercher et on explique pourquoi on a eu le problème. Ce qui est hyper satisfaisant quand on va voir son chef et qu'on lui dit « Chef, j'ai compris pourquoi je me suis trompé ». Ça, ça lui fait tout de suite très plaisir. Et immédiatement après, c'est « Et la prochaine fois, comment vas-tu faire pour ne pas te tromper ?» Donc il y a deux solutions, où on est très travailleur, où on est fainéant. Moi je me place du côté des fainéants, donc si un ordinateur pouvait me pousser une aide à la décision qui me dit « Attention, le régime moteur tel qu'il est utilisé risque de conduire à une casse moteur » ou à un problème de boîte à vitesse, parce que dans 90% des cas sur les trois dernières années, pour ces machines achetées chez Caterpillar de tel modèle, nous avons eu la même panne. Alors ça, si tu trouves quelqu'un qui sait, il te le dira. Quel terme? Ouais, alors j'aimais pas KM il y a 10 ans et j'aime pas IA aujourd'hui. Mais donc, je suis lent. Mais je vais m'y mettre. J'ai assisté il y a pas très longtemps à un petit déjeuner de scientifiques, là. Et la personne venait pour vendre l'IA et commence par dire, vous voyez, j'ai écrit un bouquin. Il y avait que des gens du métier du BTP, hein. Je pense qu'on avait oublié de lui dire comment on était. Il arrive, il dit, j'ai écrit un bouquin sur l'intelligence artificielle à votre service, mais j'ai pas pu écrire une seule page sur le BTP parce que vous n'en faites pas. Donc ça a commencé comme ça, le petit déjeuner s'est bien passé. Surtout pour nous, pour lui un peu moins. D'ailleurs, j'ai appris depuis qu'au prochain petit déjeuner, ce ne sera pas lui. Oui, oui, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, Philippe reconnaîtra que dans le « et plus loin », j'ai supprimé le terme « intelligence artificielle » puisque la deuxième ligne de l'ambition 2025, c'était sur l'IA. Et j'ai enlevé le terme. Alors, ce que je dis, moi, c'est pas tout à fait de l'IA. L'IA, pour moi, c'est pousser des indicateurs sur lesquels on n'a pas encore travaillé. Moi, je prétends juste utiliser ce que l'on a, nos retours d'expérience, qui devraient normalement conduire en disant « Attention, sur une piste de terrassement, si les pentes sont supérieures à 6%, nous vous déconseillons de charger les tombereaux à plus de 80% de leur charge parce que vous allez abîmer la boîte. » Si rien que ça pouvait sortir sur le smartphone du conducteur d'engin, du conducteur de travaux et du patron opérationnel le jour où les pistes dépassent 6% et la charge est supérieure à 80%, je pense que ce serait super. On peut en parler. Je sais ce qui existe à peu près et je sais que nos amis américains sont un peu plus en avance que nous. Bien évidemment, tout ça existe. Tout ça existe de manière sélective. C'est les fameuses petites briques que je disais tout à l'heure, on a un peu semé partout. Et après, si on veut avoir un levier de performance d'une entreprise, il faut que tout ça se mette ensemble. Il faut que moi je puisse comparer un régime moteur de mon Caterpillar au fin fond de la Creuse avec mes problèmes de ressources humaines de la filière matérielle dans le Nord. Et ça, c'est une logique d'entreprise. Et si demain, l'intelligence artificielle me pousse un indicateur que je connais pas, qui est le ratio des pentes de terrassement divisé par la moyenne d'âge de l'apprenti qui est dans les chantiers, et il va me dire, c'est bizarre, parce qu'à chaque fois qu'on est en dessous de 5 sur cet indicateur, il y a une merde. Et à chaque fois qu'on est au-dessus de 5, je sais pas pourquoi, mais ça se passe bien. Ça, c'est de l'IA. Dans 10 ans. Laissez-moi un peu de temps.
Hein? Alors, j'ai remarqué que vous avez avancé la démarche il y a quelques années sur ça. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est des concurrents. Est-ce que ça a été au même moment ou ça a été par la suite avec...
Bon, comme vous pouvez vous en douter, nous n'avons que très peu de concurrents. À ce niveau-là de la compétition, je crois que nous sommes seuls. Il y a plusieurs types de démarches qui sont mises aujourd'hui. Il y a une démarche, je vais citer des noms, parce que si un jour vous allez chercher, ce sera plus facile. On va parler de Vinci, tout le monde connaît Vinci. Vinci a eu, probablement a été un des premiers groupes de BTP à flanquer le poste de KM sur quelqu'un. Ce quelqu'un, il est parti de la société Hubert Bor, il y a une quinzaine d'années. Et c'est typiquement ce que moi je ne veux pas chez nous, c'est-à-dire on a associé le KM à une personne. Et pourquoi on a associé le KM à cette personne? C'est parce qu'elle avait tout vu, tout fait dans l'entreprise, et au bout d'un moment, il a fallu lui trouver un titre. C'était la référence que tout le monde consultait. Il y a le patron chez qui tout le monde allait se faire engueuler, et puis il y avait le bureau qui était pas très loin dessus du patron où tout le monde allait chercher un conseil. Et donc cette personne, Hubert Bor, on lui a appris, tu vas être knowledge manager de Vinci. Bien évidemment, quand Hubert Bor a pris sa retraite, il n'y a plus de knowledge manager. Donc ça, c'est plutôt associé à une capitalisation d'expérience sur quelqu'un. L'entreprise Bouygues, on en a parlé juste avant de venir, a une démarche. Alors, pour ceux qui connaissent pas Bouygues, c'est une petite entreprise qui existe au fin fond des Yvelines, dans un parc assez joli, le parc, dans des bâtiments très modestes, et par contre avec une véritable intelligence du métier. C'est-à-dire que les premiers calculs informatiques, on les doit à Bouygues. Le premier bureau de calcul informatique, de modélisation, de calcul compliqué, on le doit à Bouygues. Les premières méthodes de construction un petit peu novatrices il y a 30-40 ans, on les doit à Bouygues. Le pont de l'île de Ré, bon, qui a eu un petit problème récemment, mais qui a un pont fait avec une superbe grosse poutre qui est plus grosse que le pont. On le doit à Francis Bouygues. Le développement du matériel, de la préfabrication, tout ça, c'est Bouygues. Donc, ils ont toujours été plutôt très pushy dans ces domaines un petit peu nouveaux. Eux, ils ont une démarche qui est un peu plus proche de la mienne, même si je me défends souvent de ne pas être orange. Ils ont plutôt mis en place un système permettant aux gens d'accéder à la connaissance. Par exemple, nous, moi je suis fier aujourd'hui de vous expliquer qu'on a mis au campus Pierre Berger à Vélizy 4 bibliothèques en réseau. Bouygues, ils ont plutôt créé un service documentation unique et ils ont interdit aux gens de commander un bouquin. Et ils doivent passer par le service documentation en disant « Est-ce que vous avez le bouquin de tel nom, de telle date ?» Deux solutions, il est au service documentation, il arrive sur le bureau, il n'est pas au service documentation, c'est le service documentation qui décide de l'acheter pour le service documentation Bouygues. D'accord ? Comme tout système, ça a des défauts et des qualités, par contre, ils ont plutôt une logique de centralisation. Et tout se passe dans un des triangles de l'espace Challenger à Saint-Quentin. Donc voilà pour moi où en est la concurrence. Après, il y a des démarches qui sont faites, on va dire, sur des industriels, parce que nous, on est beaucoup en liaison avec des industriels, bon, qui sont pour moi plutôt du niveau du portail numérique. Et après, un peu à l'instar de ce que je vous ai présenté sur le webinaire, le quart d'heure technique, les demi-heures projet, il y a des démarches qui sont faites plutôt avec des modules e-learning et des modules MOOC dans certaines entreprises. Alors je pense qu'il n'y a pas une solution. Je pense que toutes les solutions sont bonnes avec, si on a l'objectif, d'adresser un maximum de population avec un maximum de canaux. Voilà. Mais je pense objectivement qu'on n'est pas à la ramasse par rapport à la concurrence. Et d'ailleurs, quand je pense que la première année où on a pris une étudiante de l'EBD, je crois qu'on était la première boîte de BTP, enfin, grosse boîte de BTP, à prendre ses étudiantes. Donc, deux solutions. Ou il y a une autre école, ou alors on était vraiment les premiers. Il y a d'autres écoles, bien évidemment, mais en tout cas, dans cette démarche un peu singulière, j'en conviens, on était les premiers. Tous les DRH, là, il n'y a pas de questions. Ce que je vous ai déjà répondu, il ne change pas assez vite, ça c'est sûr. Je pense que, un peu comme j'ai dit pour les quarts d'heure techniques et la cartographie de connaissances, c'est un peu la même démarche, les gens se sont pris à finalement aimer ce qu'ils faisaient. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas naturellement. Alors c'est sûr, si on sort, on va passer devant un ouvrage et on va vous dire « et ça c'est moi, et puis ça j'y étais, et puis ça je l'ai fait ». Il y a une relative appropriation des ouvrages dans le BTP, mais quand on est entre nous, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas ce sentiment de fierté. Et je pense que le, et c'est notamment quelque chose que vous aviez relevé, mais je pense que le fait que on aille voir les ingénieurs et les projeteurs et on leur dise « dis-moi ce que tu fais » et qu'on mette ça sur la cartographie des connaissances, c'est une forme de reconnaissance aussi pour eux. Même si ça va mettre un peu de temps à percoler, les quarts d'heure techniques, je vous ai dit au début c'était zéro, aujourd'hui c'est 60 personnes de manière assez régulière. Je pense qu'il y a une adhésion à quelque chose qui valorise finalement en interne les actions des gens. Et ça c'est plutôt quelque chose de nouveau, puisqu'on était assez peu dans la démarche de valorisation et de reconnaissance, ce que beaucoup de collaborateurs reprochaient. Alors on verra, parce que d'ici la fin de l'année, on aura quelques éléments en retour justement sur ces thèmes-là, sur la satisfaction des collaborateurs, qui est quelque chose qu'on ne mesurait pas avant non plus et qu'on mesure aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a peut-être C'est peut-être là où ils ont le plus changé, c'est ce sentiment de finalement dire je suis pas là que de 8h à 18h pour faire quelque chose, mais je participe à une œuvre commune, et que cette œuvre commune, finalement, elle existe. Elle est réelle, mais par contre, si je vais sur le portail, je vais la retrouver. Si je vais dans la bibliothèque des quarts d'heure techniques, il y aura une vidéo, et d'ailleurs, c'est moi qui parle. Regardez, c'est moi qui vous ai parlé des parages, non. Et je pense que ça, c'est quand même assez nouveau. Alors on le verra vraiment lorsque un a refusé de se faire filmer au quart d'heure. Le jour où il reviendra me voir en disant « Est-ce que je peux avoir un quart d'heure aussi à moi ?» Peut-être que là on aura fait un grand pas. Merci beaucoup.